Merci beaucoup. Je veux d'abord remercier M. Jean-Louis Martinan de m'avoir invité aujourd'hui. Quand j'ai vu un petit peu l'annonce, le titre et puis l'annonce de ces journées, j'ai eu le sentiment que les démarches intégratives recouvraient en fait des choses assez différentes, c'est-à-dire des types d'intégration. Donc, j'ai vu, dans le programme et dans l'annonce, j'ai vu qu'il y avait en réalité des démarches intégratives de nature assez différente, comme vous le soulignez. Ça peut être des démarches intégratives entre techniques, par exemple, et approches théoriques. Ça peut être des démarches intégratives à des niveaux différents d'organisation. Je vais me focaliser là principalement peut-être sur les démarches intégratives que vous avez appelées interthéoriques, c'est-à-dire où l'on tente d'intégrer des schèmes explicatifs différents. Alors effectivement, j'en viendrai, comme vous l'annonciez, à ces différents schèmes à l'œuvre aujourd'hui en biologie et à leur articulation. J'ai pensé peut-être en introduction qu'il était bon d'essayer de souligner les difficultés dans ces démarches intégratives. Comme je pense que ces journées ont plutôt montré les succès ou la possibilité de réaliser des démarches intégratives, j'ai pensé que c'était peut-être pas mauvais de trouver dans l'histoire des exemples de difficultés de ces démarches intégratives, parce que, non pas comme certains sociologues des sciences pour montrer que la science ne fonctionne pas, mais parce que je pense que des difficultés et de l'échec, quelquefois, naissent plus de leçons que des succès eux-mêmes. Alors, je vais, donc, dans la première partie, vous présenter quelques échecs ou difficultés sur 4 exemples historiques. Puis après, j'essaierai d'en déduire un certain nombre de leçons un peu épistémologiques sur comment il me semble qu'il faut améliorer éventuellement ou faciliter plus exactement l'articulation entre des approches théoriques différentes. Et puis à la fin, je terminerai donc par des exemples empruntés précisément à la biologie contemporaine pour préciser un petit peu cette idée d'articulation interthéorique. Alors, de quelques échecs et difficultés. Et j'ai mis en premier l'essor de la biologie moléculaire de manière un peu provocatrice, parce que, a priori, on ne considère pas que l'essor de la biologie moléculaire est un échec. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si on regarde l'essor de la biologie moléculaire, on a eu de magnifiques intégrations, en particulier au niveau des techniques. Et ici, j'ai fait une liste sommaire, mais des principales technologies qui ont joué un rôle majeur dans l'essor de la biologie moléculaire. Et ces technologies étaient des technologies d'origine physique. Et elles ont contribué au progrès. Juste, je voudrais illustrer ceci rapidement. Voilà un des premiers appareils électrophorèse en 1942 à l'Institut Rockefeller de New York. 6 années après, on a un autre appareil d'électrophorèse. Juste pour remarquer que ce qui nous paraît si simple aujourd'hui ne l'était pas à l'époque. Et que ces machines-là, comme vous vous en doutez, nécessitaient des compétences très fortes de physiciens pour pouvoir être manipulées. Alors, encore un exemple, l'appareil de diffraction à rayons X. Et ici, vous avez une photographie de Maurice Wilkins devant l'appareil qui a été utilisé pour la diffraction des rayons X sur les molécules d'ADN. Donc, très belle démarche intégrative au niveau des entre les techniques, les technologies de la physique et les concepts de la biologie. Démarche intégrative aussi que réalisée par Linus Pauling entre les résultats de la physique quantique, l'application de la physique quantique aux molécules chimiques, et puis ensuite de là, la mise au point de règles relativement simples qui permettent ensuite d'aborder l'étude de molécules beaucoup plus complexes. Règles, par exemple, les règles des orbitales moléculaires et les règles qui vont permettre de dessiner la structure des macromolécules. Mais alors, dans ce cas-là, que signifie exactement pourquoi j'ai parlé d'échec ou de difficulté? Parce que si on revient maintenant à ce qu'avaient été les ambitions de certains des physiciens qui se sont tournés vers la biologie moléculaire, elles n'ont pas été remplies. C'est le cas, par exemple, des ambitions de Erwin Schrödinger, qui espérait vraiment que la théorie quantique serait, au fond, l'explication des phénomènes du vivant à travers la caractérisation de la structure des gènes, ou, plus encore, de Max Delbrück, le fondateur du groupe du phage, qui espérait trouver de nouvelles lois par l'étude des phénomènes biologiques, de nouvelles lois qui auraient complété les lois déjà existantes en physique. Et ce projet n'a pas abouti, et vous savez que Max Delbrück, lui-même un peu déçu, au fond, d'une certaine manière, par la banalité chimique de ce qui avait été trouvé, a décidé à la fin de sa vie de se tourner vers l'étude de la dernière frontière des connaissances, qui était la connaissance de la conscience, en travaillant sur un champignon phototrope. Donc c'est dans ce sens qu'on peut parler, non pas d'échec, mais de difficulté. Il y a, au fond, il y a eu une tentative d'intégration des théories de la physique et des modèles de la biologie qui n'a pas abouti. Alors, deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est les années 1970 et les efforts de modélisation. Alors, vous savez que dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, il va y avoir une intense effervescence théorique. On observe que de nombreux chercheurs, de nombreux théoriciens se tournent vers la biologie et élaborent des modèles. Alors, sur l'image suivante, j'ai juste représenté cet ouvrage qui est un peu symbolique de cette époque, l'ouvrage d'Ilya Prigogine et d'Isabelle Stengers et de l'école belge de thermodynamique. Mais c'est aussi l'époque, par exemple, où Stuart Kaufmann propose ses premiers modèles. C'est l'époque aussi où René Thom propose sa théorie de la morphogénèse. Il y a une effervescence théorique dans ces années 1970. Alors, on retrouve aujourd'hui, comme on le verra tout à l'heure, beaucoup de ces modèles, en réalité, aujourd'hui, sont utilisés. Mais ce qu'on peut constater, c'est que dans ces années-là, il n'y a pas eu une vraie rencontre entre ce travail des théoriciens et le travail des biologistes moléculaires. Alors, comment peut-on un peu interpréter ces deux cas, qui ne sont pas des échecs, mais disons qu'ils sont des rencontres qui n'ont pas été abouties pleinement? Alors, je pense que dans le deuxième cas, il est évident que les connaissances en biologie moléculaire étaient trop limitées lorsque le travail des théoriciens a été initié. En particulier, les modélisations des réseaux génétiques, aussi intéressantes qu'elles soient, se heurtaient à l'ignorance même de ces réseaux génétiques. Donc, le travail ne pouvait pas aller très loin. En plus, même quand on les connaissait, on n'avait pas encore les outils permettant de mesurer les paramètres, la concentration des composants, les affinités avec une précision suffisante. Quand on voit sur le premier, une sorte d'échec de rencontre entre la physique théorique et la biologie, à la naissance de la biologie moléculaire, je pense que là, une des raisons peut-être qui a gêné la rencontre était le déséquilibre qu'il y avait entre les deux disciplines. Alors là, j'ai juste pris une citation de Pierre Girard, qui était directeur de l'IBPC, le premier directeur de l'Institut de biologie physico-chimique, un institut tout à fait remarquable, puisqu'il symbolisait par son organisation, au fond, cette volonté de rassembler physiciens, chimistes, biologistes. Et comme vous le voyez, il souligne l'esprit d'entraide entre les disciplines, mais il ajoute aussitôt que cette entraide, évidemment, n'est pas symétrique, et qu'elle va des sciences les mieux constituées, les plus solides, vers les sciences les moins constituées. Donc un déséquilibre qui, je pense, comme tout déséquilibre, nuit, ne peut que nuire à ces démarches intégratives. Alors, je voudrais maintenant venir à deux exemples moins larges, mais peut-être plus précis. L'un qui est actuel, et je vais revenir, c'est un exemple que j'aime bien, parce que je trouve, d'abord, il suscite beaucoup de choses, qui est l'explication de la grippe espagnole des années 1918-1919. Qu'est-ce qui explique cette grande pandémie qui a fait plus de morts que les armes sur les champs de bataille? Jusqu'à il y a quelques années, la théorie, l'explication dominante, était que c'était l'état sanitaire des populations, c'était les mouvements de ces populations, le rassemblement des troupes, puis à la fin de la guerre, les soldats qui repartent chez eux et en même temps emportent avec eux les germes pathogènes, les apportent à une population qui avait été mal nourrie pendant des années, donc qui était en état de faiblesse, que c'était là qu'était l'explication de cette grande pandémie. Alors, comme vous le savez, depuis quelques années, on a réussi, à partir d'échantillons qui avaient été conservés, soit dans le congelé naturellement, soit dans des laboratoires, à extraire le virus, à extraire les acides nucléiques, et puis à partir de ça, donc à détermine la séquence complète du virus et à resynthétiser les protéines de ce virus. Et voici par exemple un exemple, ici c'est juste un livre qui était sur là, et voici ici un exemple de travail où on a pu déterminer la structure tridimensionnelle de l'hémagglutinine du virus de l'influenza de 1918 et comparer cette structure à la structure de l'hémagglutinine d'autres souches de virus de l'influenza de la grippe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un article qui annonçait, qui présentait un News and Views, qui présentait, enfin une petite, plutôt une analyse qui présentait ses travaux, l'auteur de cette analyse présenter donc les premières explications que je vous ai mentionnées précédemment, ces explications populationnelles, épidémiologiques, pour finalement dire que maintenant qu'on avait la structure, on se rendait compte que la protéine de l'hémagglutinine de ce virus était très particulière, en particulier, elle avait une affinité pour les virus aviaires tout en ayant une affinité pour les cellules humaines, donc possibilité de passer facilement de l'un à l'autre. Et la conclusion était que, bien l'explication maintenant, on savait qu'elle n'était pas dans les mouvements des populations, mais elle était dans la structure particulière du virus et ses caractéristiques structurales. Et ce qui me semble, c'est dans ce cas-là, c'est que je ne vois pas pourquoi il faut choisir entre ces deux types d'explications, car elles sont de nature différente et elles ne sont pas absolument incompatibles entre elles. En réalité, il est probable que la pandémie, sa gravité, vienne à la fois de caractéristiques structurales particulières du virus qui lui permettent de circuler plus facilement d'un hôte à l'autre et aussi qu'elle vienne évidemment des conditions sanitaires, des mouvements de population. On a deux explications qui sont absolument complémentaires, mais vouloir choisir entre elles, à mon avis, est le signe ici qu'il y a une difficulté souvent à articuler, à intégrer des approches scientifiques différentes. Alors, un dernier exemple qui est les recherches sur la mémoire moléculaire qui vont rappeler des souvenirs ceux qui ont connu les années 60-70 et toutes ces théories qui recherchaient, comme c'est montré ici dans l'illustration d'un livre qui était paru à l'époque, mais il y en a eu plusieurs, les bases moléculaires de la mémoire. Ce livre était assez étonnant, je n'ai pas la tête des chapitres, mais vous aviez en réalité plusieurs chapitres et chacun testait l'hypothèse que la molécule de la mémoire, ça pouvait être l'ADN, ça pouvait être l'ARN, ça pouvait être les protéines, ça pouvait être les peptides, et on passait en revue les arguments. Alors, avec des expériences qui, je vous rappelle, qui étaient des expériences de transfert de mémoire, donc on prenait un rat, ici un animal de nerf, j'ai extrait ça d'un article de La Recherche de l'époque. On prenait un rat, on lui faisait apprendre un comportement, on prenait son cerveau, on le broyait, on extrayait alors soit l'ARN, soit les peptides, soit les protéines, on injectait ça à un animal receveur, et l'animal tout de suite se comportait comme le donneur, choisissait la bonne branche du labyrinthe. Alors, il y avait une série de travaux qui étaient publiés à l'époque dans les meilleures revues. Et puis, vous savez, à partir du milieu des années 70, les critiques ont commencé à apparaître, des doutes sur la rigueur avec laquelle les tests comportementaux étaient faits, et puis ces travaux ont disparu. On a interprété des résultats comme, au fond, une mauvaise analyse, dans le sens qu'on avait cru spécifique des phénomènes, par exemple, non spécifiques, et que probablement un certain nombre des extraits contenaient des peptides qui pouvaient modifier le comportement, mais de manière non spécifique. Alors, il me semble qu'ici, il y a eu une sorte de tentative d'intégration, au fond, puisqu'on tentait de rapprocher les études de neurophysiologie comportementale et de biologie moléculaire, mais une tentative de rapprochement, d'intégration, qui reposait sur quand même une ignorance par ceux qui faisaient les approches moléculaires de la complexité des phénomènes de la mémoire. Car imaginez qu'il suffisait, comme ça on pouvait rajouter un ARN ou une protéine de l'extérieur et que le comportement allait aussitôt se programmer, était quand même pour les neurophysiologistes qui travaillaient sur les réseaux de neurones, je pense, assez surprenant comme théorie. Donc, dans les deux derniers cas, il me semble qu'ils mettent en évidence une des difficultés qui est au fond quelquefois la méconnaissance ou l'ignorance de la valeur des explications proposées par d'autres disciplines. Et il me semble que pour une intégration, une condition absolument nécessaire est cette connaissance, au moins partielle, mais une connaissance des théories, des modèles proposés par le partenaire avec lequel on veut tenter l'intégration. Alors, venons-en maintenant à mon deuxième point, qui est comment améliorer l'articulation. Alors, je voudrais dire que l'articulation, je pense, c'est ou l'intégration, j'utilise le terme articulation, mais c'est une autre manière de parler simplement d'intégration théorique, peut-être. Il me semble que c'est un phénomène qui est à la fois social et cognitif. C'est-à-dire, il met en jeu... Les obstacles sont à la fois de nature sociale, disciplinaire, dans l'organisation de la recherche, la séparation dans les formations, mais ils sont aussi cognitifs, dans le sens que je pense que, en particulier, lorsqu'on a été habitué à raisonner dans un certain schéma explicatif, on a relativement du mal à découvrir, à s'habituer à d'autres schémas explicatifs. Il y a un effet d'habituation à un schéma explicatif, mais qui, au fond, rend en quelque sorte presque aveugle ou rend difficile la saisie d'autres schémas explicatifs extérieurs appartenant à d'autres disciplines. Alors, comment remédier à ça ? Quelquefois, on dit qu'il faut former des gens qui soient capables de maîtriser toutes les approches à la fois. Donc, ça serait l'idée d'avoir des chercheurs totalement pluridisciplinaires. Je pense que c'est une ambition forte parce que c'est déjà difficile de maîtriser bien sa propre discipline et toute sa complexité, toutes les informations dont on a besoin. Il me semble que vouloir qu'on ait des chercheurs capables de maîtriser parfaitement plusieurs disciplines est un objectif ambitieux. Mon sentiment est que d'ailleurs on n'a pas besoin de ça. L'objectif, je pense, ne doit pas être de former des gens qui soient spécialistes à la fois dans plusieurs disciplines, capable de maîtriser parfaitement plusieurs théories, mais il s'agit de former des chercheurs qui connaissent bien une approche particulière, qu'ils soient des spécialistes en biologie moléculaire, en physique, etc., etc., mais qui soient capables de comprendre les questions posées dans d'autres disciplines, les enjeux des recherches effectuées dans d'autres disciplines, et donc capable de collaborer, de discuter avec les spécialistes d'autres disciplines. Donc, pas des polyvalents, mais des gens ouverts à la coopération, à la collaboration scientifique. Alors, le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est se méfier des modèles épistémologiques trop simples, parce que je pense que il y a, dans le milieu scientifique en particulier, une sorte d'épistémologie, l'épistémologie a diffusé. Mais elle a diffusé de manière quelquefois un peu simple. Alors, je pense par exemple au modèle de Popper, qui a bien connu des scientifiques. Mais le modèle de Popper, qui déjà peut être critiqué, mais dans le milieu scientifique, est utilisé de manière très simpliste, où on considère que le travail essentiel d'un scientifique, ça doit être de renverser le modèle qui a été proposé par d'autres. Or, ça ne correspond pas vraiment, ça, à l'activité scientifique courante, où on passe plus son temps à essayer de conforter un modèle, à de le renforcer, de faire entrer les faits dans un modèle, que de chercher en réalité à renverser les modèles. Mais je pense que cette vision un peu caricaturale du modèle de Popper nuit, parce que très souvent les gens voient des antagonismes entre théorie ou modèle, là où il faudrait plutôt chercher une manière d'articuler ces modèles. C'est-à-dire, il faut remplacer une théorie par une autre, au lieu de se dire que peut-être simplement le travail qu'il faut faire, c'est d'intégrer des approches théoriques différentes pour les enrichir mutuellement. Et très souvent, c'est vu en termes de confrontation. Telle théorie est modèle, est mauvaise, il faut la remplacer. Je vais prendre un exemple parce que je m'y suis un peu intéressé. Dans les problèmes, par exemple, l'explication du cancer, il y a un modèle aujourd'hui qui est très fort, qui est le modèle des oncogènes et anti-oncogènes, donc l'explication moléculaire du cancer. Mais vous savez sans doute qu'il y a des opposants très forts qui rejettent totalement ce modèle. Alors que je pense qu'il me semble que ce genre de conflit n'a guère de sens. C'est-à-dire, il est clair que le modèle des oncogènes et anti-oncogènes a beaucoup de valeur. Il est clair aussi qu'il doit être complété par d'autres approches plus générales et qu'il ne s'agit pas de le remplacer par une théorie, par exemple, globale du cancer. Ça me paraît un peu une absurdité. Alors, un dernier élément d'épistémologie dont il faut se méfier, je pense, c'est le goût aussi peut-être trop prononcé pour un certain nombre de débats qui, à mon avis, souvent se terminent un peu en dans un flou, qui est par exemple le débat entre réductionnisme et holisme. Alors, qu'est-ce qu'on ne parle pas de ces conflits entre réductionnisme, holisme, est-ce que la biologie moléculaire n'est pas trop réductionniste, etc. Alors qu'il me semble que dans la majorité des cas, le problème n'est pas d'être réductionniste ou holiste, mais c'est, là encore, d'articuler des approches différentes. Il ne s'agit pas de choisir, mais il s'agit simplement de dire qu'une approche réductionniste particulière peut être complétée par des approches plus globales, mais pas, là encore, pas de conflit comme si on avait à choisir entre des approches différentes. Et puis alors, un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'évidemment, la reconnaissance du travail interdisciplinaire est toujours difficile, ça, c'est un, parce qu'étant à l'interface, on est au fond, soit jugé entièrement sur une seule discipline, et jamais jugé sur deux, ce qui évidemment rend toujours ces positions interdisciplinaires un peu difficiles. Alors, si vous me permettez, je voudrais illustrer ça par une personnalité scientifique que j'aime beaucoup, qui est Émile Duclos, parce que je trouve que c'est un scientifique tout à fait méconnu. Vous savez que Émile Duclos a été un très proche collaborateur de Pasteur. Il a succédé à Louis Pasteur à la tête de l'Institut. Voilà une autre photo d'Émile Duclos dans son laboratoire. Et Émile Duclos n'est pas parmi les pasteuriens qui ont laissé un nom marquant dans la science. Par exemple, Émile Roux a laissé un nom parce qu'il a été responsable de la sérothérapie antidiphtérique. Chamberlain a laissé son nom à cause du filtre du même nom. Rollin, un autre collaborateur de Pasteur, parce qu'il a été le premier à mettre au point des milieux purs de culture. Mais ce n'est pas le cas d'Émile Duclos, qui finalement est un peu considéré comme dans l'ombre de Louis Pasteur. Alors, je me suis intéressé un peu à ce qu'a fait Émile Duclos, et en particulier à deux ouvrages qu'il a écrits. En 1883, il écrit un ouvrage qui s'appelle « Ferments et maladies », qui décrit donc les nouveaux résultats de la microbiologie et leur importance pour l'explication des maladies. Et 1902, un autre ouvrage qui s'appelle « L'hygiène sociale ». Et ce sont deux ouvrages tout à fait remarquables, parce que Émile Duclos met en avant une conception du rôle des micro-organismes dans la maladie qui est une conception qui est beaucoup plus large à la limite que la conception de Pasteur lui-même. C'est-à-dire au lieu, comme peut-être les premiers pasteuriens l'ont fait, de considérer qu'il y avait maladie quand il y avait micro-organismes pathogènes, ce que fait Émile Duclos, c'est de remettre le micro-organisme dans son environnement. Et donc de se dire qu'en réalité, une maladie, quand elle émerge, une épidémie, quand elle émerge, ce n'est pas parce que le micro-organisme arrive et qu'il n'était pas là, c'est parce qu'on a quitté un équilibre entre le micro-organisme, son hôte, et dans un certain environnement, et que cet équilibre a été rompu. Souvent d'ailleurs rompu par l'action humaine elle-même, comme par exemple des grands travaux qui vont permettre une diffusion du micro-organisme. Alors, c'est des idées qui vont être reprises après par des gens comme Charles Nicolle et les microbiologistes de la première moitié du XXe siècle. Mais je pense qu'Émile Duclos a été vraiment un des premiers à avoir cette vision très large de la maladie, a bien montré ses interactions complexes. Donc, au fond, qu'est-ce qu'il a fait? Il a articulé une description de la maladie focalisée sur le micro-organisme avec une conception très large de la maladie dans laquelle il devait tenir compte des habitudes des malades, des voies de circulation, etc., etc., tous les paramètres qui pouvaient justement moduler cet équilibre. Si vous êtes intéressé, il y a un article absolument remarquable de Duclos sur l'ankylostomiase, qui était une maladie qui touchait les mineurs dans les mines du nord de la France, due à un parasite, et où il critique d'abord les mesures qui avaient été prises en disant qu'elles sont peut-être très bien sur le papier, mais absolument inapplicables, et où après il propose des mesures qui tiennent compte justement de tous les paramètres en particulier, qui tiennent compte de la psychologie des mineurs, de leur comportement, pour arriver à des mesures sanitaires efficaces contre la maladie. Et je pense que ce mérite de Duclos d'avoir intégré au fond des connaissances de microbiologie avec des connaissances plus larges sur les sociétés humaines n'est pas reconnu et que c'est un exemple parmi beaucoup d'autres au fond de démarches intégratives qui ne retrouvent pas leur reconnaissance, une reconnaissance suffisante. Alors, je termine donc par ces exemples d'intégration. Vous en avez eu d'autres et vous en aurez d'autres dans ces deux journées. Mais quelques exemples alors d'intégration dans ce qu'on appelle souvent la post-génomique. Et là encore, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une interprétation de la post-génomique qui est de dire on quitte le réductionnisme, on va vers une vision globale. Et ça aussi, je n'aime pas parce que ça ne correspond à rien dans la réalité. Par contre, il me semble que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un effort réel d'articulation entre les explications moléculaires et puis d'autres schèmes explicatifs, soit le schème évolutionniste, comme le mentionnait M. Martinan, soit un schème, bon, que moi j'avais appelé physique non causale, qu'on peut appeler relationnel, mais disons, qui est souvent, qui a été porté en quelque sorte par les physiciens, avec lesquels les physiciens sont familiers. Et je voudrais illustrer ceci par quelques travaux de la post-génomique qui me semblent justement de très bons exemples de ces avancées permis par cette articulation. Alors, par exemple, eh bien, les travaux qui sont sur l'architecture des réseaux, donc, qui évidemment repose sur une bonne connaissance moléculaire, c'est la biologie moléculaire qui a fourni l'observation de ces réseaux, mais en même temps qui tente maintenant d'aller plus loin et de trouver dans la géométrie des réseaux, dans leur organisation, une explication de leurs caractéristiques fonctionnelles. Donc il me semble une articulation là entre une explication moléculaire et puis une explication plus relationnelle de ce qui se passe.